La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui à La Voix des Arts et pour RLP Radio Libre en Périgord, je vous propose une émission spéciale. Alors nous sommes près ou dans la semaine du 23 au 29 mars 2020 et la plupart des animateurs de RLP se sont mobilisés pour aborder les sujets sur le racisme, la discrimination et l'antisémitisme, source de tensions, de heurts et d'injustices et dont nous devrions tous prendre conscience afin d'améliorer le vivre ensemble dont notre monde a cruellement besoin. Alors pour illustrer ces sujets sensibles, et puisque avec moi vous explorez le monde de l'art avec des femmes artistes, créatrices, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter une écrivaine, journaliste, dotée d'une sensibilité artistique, dans le sens où elle a cherché à valoriser l'art et la culture martiniquaise africaine. Vous l'avez compris, il s'agit d'une femme noire, une militante de surcroît, non seulement pour le droit des femmes noires, mais aussi pour la construction d'une identité noire. Alors elles sont plusieurs, hein, mais celle-ci sort un peu du lot dans le sens d'une vie totalement dédiée au combat pour l'égalité noir-blanc, homme-femme, et précurseur de ce fameux concept de la négritude dont je vais parler plus loin. Alors, qui est-elle? Eh bien, cette personne se nomme Paulette Nardal. Elle est née fin du 19e siècle, presque à l'aube du 20e, en 1896, en Martinique. Elle est l'aînée de 7 sœurs, elle est aussi impliquée dans la défense des droits des Noirs et des femmes. Bon, on va dire qu'elle est issue de la classe moyenne supérieure. Son père, bien que petit-fils d'esclave, sera le premier ingénieur noir de l'île et promu directeur des ponts et chaussées. Et en effet, il sera le premier noir à recevoir une bourse pour poursuivre ses études à l'école d'ingénieurs des arts et métiers de Paris. Alors il enseignera également les mathématiques et la physique à de futurs ingénieurs et recevra par la suite l'ordre des palmes académiques et la Légion d'honneur. Donc c'est un homme qui dispose de belles cordes à son arc, même si Paulette Nardal, dans ses écrits, fait remarquer que la couleur de peau de son père ne lui a pas permis d'accéder à de plus hautes fonctions. Quant à sa mère, elle ne départ pas auprès de son mari. Alors, c'est une métisse qui sera institutrice et également, à ce qu'il paraît, une pianiste de talent, si bien que les enfants dans ce milieu bénéficieront d'une éducation complète avec une instruction à la française, c'est-à-dire qu'elles apprendront le grec, le latin, bon aussi l'histoire de l'art, tout en gardant les traditions issues de leurs origines noires et qu'elles essaieront de valoriser par la suite, ainsi que les métissages, hein, et de ces mélanges de cultures diverses. Et ce, ben, en dépit des excès du colonialisme, hein, mais aussi grâce à ses apports bénéfiques. Bon, ce qui équivaut en quelque sorte à transcender tout ce passé pour en dégager le meilleur afin de façonner l'identité singulière de la Martinique dont elles seront les dignes représentantes. Alors Paulette Nardal s'emploiera à lutter contre le racisme en dégageant le positif de toutes les influences, qu'elles soient latines et blanches ou bien qu'elles soient noires venues d'Afrique, du Mali, enfin de différentes ethnies dont la mixité représente son identité spécifique de martiniquaise. Mais son travail portera bien au-delà des frontières de la Martinique pour redonner aux peuples noirs et métis une conscience de leurs qualités et spécificités et fédérer ce qui doit l'être, ce qui préfigure au fameux concept de la négritude. Alors d'après ce que j'ai lu et sans risque de me tromper, je peux dire que Paulette Nardal était une humaniste consciente de la valeur humaine, bien au-delà de toutes les apparences physiques, sociales et culturelles. Mais revenons à son enfance et à celle de ses sœurs. Alors comme elle baigne dans un milieu plutôt artistique, ben, toutes seront mélomanes, certaines composeront, d'autres interpréteront la musique. Toutes poursuivront des études supérieures et Paulette Nardal, qui n'est pas en reste, exercera d'abord en tant qu'institutrice avant de partir en France, dans la métropole, dans les années 20, pour devenir ainsi la première femme noire à étudier à la célèbre Sorbonne de Paris, ce qui est quand même notable à cette époque. Alors de son enfance, Paulette Nardal tire des leçons de ses observations, puisqu'elle note, comme elle l'a mentionné dans ses mémoires, et je vous le lis, « Les Noirs ne pouvaient espérer obtenir ce qu'avaient ceux qui avaient le teint clair. » Bon, ce qui laisse entendre que ses réflexions et théories futures s'appuieront sur ses observations et des constats, et idem pour sa sœur Jeanne Nardal. Bon, il va sans dire que ces femmes sont convaincues que le mérite et les compétences ne sont pas affaires de couleur de peau, ce qu'elles ont prouvé par leur vécu et aussi grâce à l'exemple de leurs parents. Donc, Paulette, consciente de la réalité environnementale, des enjeux futurs, partira dans les années 20 à Paris étudier l'anglais à la Sorbonne, rejoint par sa sœur Jeanne Nardal qui étudiera la littérature. Et cette dernière deviendra aussi écrivaine, également philosophe, essayiste politique et militante, comme sa sœur, pour les droits des Noirs, hommes et femmes. Alors à la Sorbonne, mais on sent déjà l'implication de Paulette Nardal pour défendre les Noirs, car elle présentera une thèse sur l'écrivaine abolitionniste américaine Harriet Beecher Stowe, une blanche, critique sur l'esclavagisme des Noirs. Alors j'avais évoqué déjà la voix des arts Harriet Beecher Stowe, l'auteur du célèbre roman La case de l'oncle Tom, l'histoire pathétique d'un esclave noir qui garde son humanité et sa bienveillance à l'égard de tous, en dépit de toutes les souffrances endurées. Alors ce livre permet de faire prendre conscience d'une réalité indigne, et il s'avère en effet que ce roman bouscula les consciences, dérangea les esprits dans les années 50 du 19e siècle, que l'on soit pour ou contre l'esclavage. Mais revenons à Paulette et sa sœur Jeanne, qui profitent de la vie parisienne, les sorties au théâtre, au concert, avec une troisième sœur. Bon, elles n'omettent pas de fréquenter un célèbre cabaret de danse et de jazz antillais que l'on appelle le Bar Nègre, où elles retrouvent toute leur communauté antillaise, mais aussi d'autres, dont des artistes comme la noire américaine Joséphine Baker, des blancs également comme le chanteur Maurice Chevalier, la meneuse de revue Miss Tinguette, des peintres comme Fujita, John Miro. Bon, il y aura aussi des écrivains comme Hemingway ou Miller. Enfin bon, je ne peux pas tous les citer car pratiquement tout le Paris artistique et intellectuel passera par le Bar Nègre. Et Simone de Beauvoir a quelque peu immortalisé dans ses écrits l'ambiance du bar. Alors il semblerait qu'elle ait été impressionnée par la souplesse féline des Antillais, c'est-à-dire des Noirs face à la raideur des Blancs, certainement, bon je vais mettre des guillemets, encore amidonnés par quelques décennies d'éducation rigide, et dont la plupart préféraient, on peut le comprendre, faire tapisserie plutôt que de se risquer à des comparaisons peu flatteuses pour eux. Alors à côté de leur sortie, ces dames tiennent salon. Bon, n'oublions pas que nous avons affaire à des femmes éduquées et intellectuelles dont les besoins sont liés au changement et au renouvellement de leur situation. Alors évidemment, les intellectuels et artistes défilent chez elles, notamment ceux de la communauté antillaise africaine, si bien que des personnalités qui seront connues et reconnues à l'international comme les écrivains poètes le Martiniquais Aimé Césaire, qui deviendra un homme politique français puisqu'il sera député en Martinique et également maire de Fort-de-France durant plus d'une cinquantaine d'années à partir des années 50. Et le Sénégalais Léopold de Sédar Senghor, qui lui deviendra président de la République du Sénégal de 1960 à 80 et qui sera le premier Africain à rejoindre l'Académie française. Donc ces personnes construisent chez et avec, je le précise, les sœurs Nardal, le concept de la négritude pour revendiquer l'identité et la culture noire. Alors, pour être la plus juste, en vous présentant, même de manière succincte, le concept de la négritude, je vais reprendre les mots d'Aimé Césaire. Alors, je lis « La négritude est la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. » Et Léopold de Sédar Senghor lui rajoute, et je lis « La négritude est un fait, une culture, c'est l'ensemble des valeurs économiques, politiques, intellectuelles, morales, artistiques, sociales, de peuples d'Afrique et des minorités noires d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie. » Donc il donne un sens plus large à la définition qui va bien au-delà de la couleur de peau. Alors, il y a eu beaucoup de débats autour de ce concept repris par d'autres, hein, chacun mêlant ses réflexions et ses idées. Quoi qu'il en soit, ces intellectuels affichaient leur singularité raciale et culturelle, tentaient de donner à leur communauté en même temps qu'une consistance et une légitimité des lettres de noblesse, bon, sans doute à cause de ce dont ils avaient été privés dans le passé, dépendant en partie de faits historiques, hein, notamment liés à certains débordements de la colonisation. Alors les sensibilités étaient exacerbées, portant ces peuples à revendiquer leur intégrité, leur autonomie, leur indépendance et des droits au même titre que tout être humain digne de ce nom. Mais revenons aux sœurs Nardal qui tiennent salon, puisque c'est de chez elles que semble émerger ce concept de la négritude, où tous sont unis pour un même combat. Mais il semblerait que le temps apporte aux femmes son lot d'amertume face à l'attitude des hommes. Bon, ce qui confirme que personne ne semble échapper à ces travers communs qui font que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, sont prompts à défendre leurs droits et des légitimités pour eux-mêmes, mais oublient aisément ceux d'autrui, même si au départ un même combat et une même soif de justice les a réunis. Alors je dis cela par rapport à ce qu'a exprimé Paulette Nardal dans une de ses lettres, et je vous le lis. Césaire et Senghor ont repris les idées que nous avons brandies et les ont exprimées avec beaucoup d'étincelles. Nous n'étions que des femmes, nous avons balisé les pistes pour les hommes. Bon, ce qui veut tout dire, hein, car là, Paulette Nardal met le doigt sur un fait universellement partagé par l'humanité, blanche ou noire, et qui prend d'ailleurs son origine dans les mêmes sources que le racisme, hein, bon ça c'est mon avis, à savoir que l'autre est minimisé, voire renié, sous des prétextes divers en lien avec, je sais pas, la différence, l'incompréhension, ou la peur, l'éducation, les coutumes. Bon. D'autre part, bon, cela voudrait dire encore qu'exiger justice pour soi n'est pas forcément l'appliquer à l'autre, en rendant simplement à chacun selon ses mérites et ses œuvres. Bon, nous pouvons aussi trouver quelques excuses à ces hommes en accusant les automatismes, les conditionnements sociaux, bon, ce qui fait qu'ils fonctionnent davantage par habitude qu'en être libres et conscients. Bon, et ceci outre le fait, bon, c'est moi qui m'avance pour le dire, que l'humanité manque de maturité, donc de sagesse, hein, qu'elle fonctionne globalement sur le mode dominant-dominé, où la loi du plus fort reste la meilleure. Or, changer la donne, ben, ce serait accepter que les égaux occupent une juste place afin de laisser l'autre exister comme soi-même, avec ses forces et faiblesses, en essayant de nous compléter, hein, plutôt que de nous affronter, et tout cela grâce à des échanges amicaux équitables, afin d'obtenir pour tous des résultats fructueux. Bon, on peut toujours rêver. Alors, je reconnais que je ne me suis pas suffisamment imprégnée des textes de Paulette Nardal et ses sœurs ou consœurs, mais il me semble, d'après son vécu, qu'elle est aspirée à davantage d'homogénéité et d'harmonie sociale. Alors, pour vérifier l'implication de Paulette Nardal avant l'heure dans la construction d'une identité noire, il faudrait, d'après ce que j'ai lu, se référer à un article écrit en 1932 et intitulé « L'éveil de la conscience de race chez les étudiants noirs ». et elle propose, outre la construction d'une identité noire, celle qui intègre les héritages multiples qu'elle nomme afro-latin. Alors en parallèle, sa sœur Jeanne Nardal publie en 1928, c'est encore plus tôt, un article intitulé Un internationalisme noir, où elle évoque la conscience de race chez les descendants africains, noirs et métis, confondus, peu importe leur classe sociale. Alors ne pas avoir lu ces articles me gêne pour en débattre, car mon avis m'importe plus que ce qui a été mâché par d'autres. Enfin, quoi qu'il en soit, elles apportent des idées fondatrices de ce concept de la négritude. Alors, vous avez constaté que Jeanne Nardal suit sa sœur de près. Elle sera l'une des fondatrices en 1928 de la Dépêche africaine, un bimensuel du Comité de défense des intérêts de la race noire, et les deux sœurs y collaboreront ensemble. Et Paulette Nardal, quant à elle, créera avec d'autres écrivains, le haïtien René Sajou et le guyanais René Maran, une revue intitulée « La revue du monde noir », éditée en français et en anglais, dont il ne paraîtra que 6 numéros, faute de subsides. En tout cas, la volonté affichée est bien de créer des liens avec tous les Noirs du monde entier, peu importe la nationalité, et défendre leurs intérêts communs et les représenter. Bon, j'ajoute que Paulette Nardal, artiste dans l'âme, se serait exprimée également sur l'art, la sculpture, la musique, la peinture, en tant que mode d'expression des Noirs. Et j'ajouterai encore que les artistes blancs, dont Picasso, entre autres, au début et mi-XXe siècle, ont été fascinés et inspirés par l'art noir dit « art nègre ». Mais ceci, revenons non pas à nos moutons, mais à nos femmes, bien décidées, elles, à ne pas se faire tondre, justement car elles sont bien présentes et actives. Et il me semble malgré tout que la solidarité, d'abord familiale, ensuite amicale et intellectuelle, a été fructueuse pour toute une communauté tendue vers un même but, où l'affirmation et l'ascension personnelle sont importantes, mais aussi où le progrès, voire l'ascension sociale du peuple noir dans son entier est revendiqué, même si les femmes n'ont pas eu le droit au chapitre qu'elles méritaient. Car dans cette chaîne où chaque maillon compte, les femmes ont été des maillons forts, je pense. Néanmoins, cette solidarité leur a permis déjà de se construire dans leur famille, d'échanger pour ensuite continuer à s'affirmer, à s'exprimer et à agir dans le social. Alors il faut dire à son crédit que Paulette Nardal va s'investir en politique. Dans les années 30, elle a 35-40 ans. Elle devient secrétaire du fondateur du mouvement socialiste en Martinique, le parlementaire Joseph Lagrossière, et de Galandou Diouf, qui deviendra député du Sénégal en 1934. En même temps, elle dénoncera l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie fasciste, qui survient en 1935 au moment où, pour garantir sa protection en cas de guerre avec les Allemands, la France accorde à l'Italie de Mussolini des droits sur ses terres, ce qui n'est pas accepté par la communauté noire internationale et notamment intellectuelle. Et à ce moment, Paulette Nardal, secrétaire du Comité mondial contre la guerre et le fascisme, publie un article intitulé « Le cri des nègres » où elle s'insurge contre l'invasion de l'Éthiopie au nom, et je lis ce que j'ai lu, des groupements de couleurs du monde entier, sans distinction de nationalité, de parti ou de classe sociale. Alors l'Église s'implique également, d'ailleurs par rapport au catholicisme et à la foi de Paulette Nardal, il semblerait qu'il y ait quelques frictions au sein des partis, notamment communistes. Malgré tout, il me semble que Paulette cherchait surtout à créer des liens positifs au-delà de tout clivage, quel qu'il soit. Alors le vrai bémol, cependant, et peut-être même plus, c'est le bombardement par les Allemands d'un bateau pendant la guerre, qui faillit lui coûter la vie et même mettre un terme à sa progression, et elle en gardera des séquelles toute sa vie. Alors parlons des actions de militante féministe de Paulette Nardal, qui a fait partie de l'UFCS, c'est-à-dire l'Union féminine civique et sociale, afin que les femmes puissent assumer pleinement leurs droits. Alors sa sœur Jeanne et elle-même ont édité dès 1927 des articles dans leur mensuel et dans un bulletin catholique, Paulette Nardal publie en 1937 l'évolution familiale et sociale des femmes noires. Et elle encourage les femmes à s'éduquer, à s'instruire, à s'affranchir, à collaborer et même à trouver des points de ralliement avec toutes les autres femmes pour devenir, et je le lis, les ouvrières du progrès social. Alors le droit de vote accordé aux femmes de France en 1944 enjoint Paulette Nardal à créer le Rassemblement féminin en 1945 pour inciter les femmes martiniquaises à aller voter. Bon, on peut dire qu'elle fut en quelque sorte une figure de proue du féminisme noir. Et elle créera d'ailleurs un journal intitulé « La femme dans la cité ». Alors à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle part aux États-Unis pour devenir la secrétaire particulière du politologue et diplomate afro-américain Ralph Bunche, qui reçut, suite à ses médiations dans les conflits israélo-arabes en 1949, le prix Nobel de la paix. Et celui-ci la fera rentrer à l'ONU, où elle deviendra, pour un peu plus d'une année, la déléguée à la section des territoires autonomes. Mais elle reviendra en Martinique dans les années 50 pour poursuivre ses actions de militante féministe et développer la culture. Et dans ce cadre, elle créera une chorale avec l'une de ses sœurs. Alors sa sœur Jeanne, retournée en Martinique dès 1929, valorise déjà les différentes musiques créées et diffusées par les Noirs, que ce soit les Noirs américains avec le chant nègre aux États-Unis, issu du blues, ou la musique noire caribéenne, entre autres. Et en parallèle, elle continue de militer. Alors si vous vous souvenez, les sœurs Nardal étaient des musiciennes, hein, des mélomanes. Moins politisées, la plupart avaient fondé une famille, ce qui n'était pas le cas de Paulette, plus impliquée dans ses combats. L'une de ses sœurs, professeure d'éducation musicale nommée Alice Nardal, est née en 1900 pour décéder, bah figurez-vous, centenaire en 2000. Bon, à croire que la musique l'a bien conservée toute sa carrière de musicienne. Qu'elle a mise au service des autres en créant de surcroît des événements musicaux. Alors j'ai lu qu'avec sa sœur Paulette, revenue au bercail, elle a créé des concours de danse et de musique créole, antillaise, entre autres. Donc elle sera récompensée en étant décorée de l'Ordre national du mérite, des palmes académiques et de la croix du mérite et du dévouement français et perpétuera grâce à sa descendance cette lignée de musiciens puisque sa fille Christiane Eda Pierre deviendra une célèbre cantatrice de renommée internationale. Alors revenons à Paulette Nardal. Quand celle-ci rentre à la Martinique dans les années 50, après une vie de militante bien remplie, la maison familiale est brûlée, si bien que de nombreux documents, témoignages de leur parcours, écrits aux correspondances diverses, disparaissent en fumée. Alors l'événement aura une répercussion sur sa carrière politique. Bon, quant à celle de Jeanne, celle-ci ne fut pas concluante. Aussi, ces dernières années, les sœurs consacreront surtout leur temps à la promotion des différents types de musique en Martinique. Alors Paulette Nardal décédera en 1985 à l'âge de 89 ans. Elle sera faite chevalier de la Légion d'honneur pour son engagement ainsi qu'officier des palmes académiques. Léopold de Sédar-Senghor lui décernera le titre de commandeur de l'Ordre national de la République du Sénégal. Et quant à Jeanne, elle décédera en 1993 à l'âge de 91 ans. Alors ces deux femmes recevront un hommage français en 2018 puisque la ville de Paris donnera leur nom à une voie située dans le 14e arrondissement qui sera appelée la promenade Jeanne et Paulette Nardal. Et celle-ci sera officiellement inaugurée en 2019 par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Bon, donc c'est relativement récent. Alors, ce ne sont pas les seules femmes à avoir milité pour le droit des hommes et des femmes noires. Parmi elles, Suzanne Roussy-Césaire, l'épouse d'Aimé Césaire et compagne de ses combats, née en 1915 et décédée prématurément de maladie, qui était professeure et eut le temps de publier également des textes sur la condition des Noirs dans une revue où elle collaborait avec son mari. Et il s'agit de la revue Tropique. Donc il semblerait qu'elle se soit attachée à reconnaître un ensemble de civilisations sans accorder de suprématie à aucune, où chacune était spécifique en possédant une âme, un esprit et expression propre. Et elle invitait surtout à la connaissance de soi, à voir d'où l'on vient et avec quel potentiel à disposition pour définir où on désire aller et comment. Bon, je n'ai pas le temps de mentionner d'autres femmes à part une blanche, une anglaise, écrivaine, éditrice et militante pour la justice qui a publié en 1934 une anthologie des écrivains et penseurs noirs, ce qui lui a attiré quelques démêlés avec la communauté blanche pour avoir osé prendre le parti des Noirs et notamment en se liant plus intimement à l'un d'entre eux. Et cette écrivaine se nommait Nancy Cunard. Mais je vous invite à vous rapprocher de ces femmes et de leurs écrits, si possible, pour saisir au plus juste leurs pensées et leurs volontés, sans pour cela négliger l'apport des hommes, afin d'aborder pleinement ce concept de la négritude. Alors ce seront les mots de la fin, qui s'achèvent sur des femmes plus ou moins oubliées, dont l'influence a été occultée alors qu'elles ont participé avec les hommes à donner vie à ce concept de négritude et ont été les pionnières pour permettre aux femmes noires de revendiquer leurs droits. Alors merci d'avoir écouté La Voix des Arts pour ce numéro spécial consacré au racisme et à la discrimination, à l'antisémitisme sur RLP, Radio Libre en Périgord, 102.3, à écouter également sur Internet.
La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.